Bonjour, je m'appelle Marielle et j'ai le plaisir de vous accueillir sur Compresse et Sparadra, le podcast qui donne la parole aux soignants. Ici, on parle de vocation, d'expérience, de déception, de choix de carrière, mais aussi de remise en question et de moments de bonheur. L'idée, vous faire découvrir ces métiers de l'ombre, l'envers du décor du milieu hospitalier, par le biais de partage d'expériences et d'interviews sans tabou. Aujourd'hui, je donne la parole à Sabrina. Sur les bancs de l'école d'infirmière, elle rêvait déjà d'un poste en tant que formatrice. Aujourd'hui, elle démarre une nouvelle carrière pour venir en aide aux soignants et étudiants dans le domaine de la santé. Bonne écoute! Bonjour Sabrina!
Bonjour Marielle!
Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui sur mon podcast Compresse et Sparadra, bienvenue!
Merci beaucoup, moi aussi je suis très très contente parce que je t'écoute très souvent.
Oh, c'est adorable. Sabrina, on va parler de plein de choses aujourd'hui, notamment de ta reconversion, de ton premier métier d'infirmière, plein de choses à raconter et ça va être un épisode passionnant, je le sais d'avance. Pour démarrer, je te laisse te présenter pour les personnes qui nous écoutent.
Très bien, moi je m'appelle Sabrina, j'ai 38 ans, j'habite tout près de Bordeaux, environ 10 minutes. Je suis mariée et j'ai un petit garçon de 5 ans et demi qui s'appelle Joshua.
Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous parler de tes projets, tes envies de formation, d'études, etc. quand tu étais plus jeune? Est-ce que devenir infirmière pour toi, c'était une évidence?
Je dirais que enfant, pas du tout, puisque enfant, moi, je voulais devenir vétérinaire, toute petite. Hein. Vétérinaire ou maîtresse? Voilà,
donc okay.
J'aimais beaucoup les animaux, enfin comme plein d'enfants, plein de petites filles. Je pense que j'ai dû avoir des envies de princesse, mais je m'en souviens pas bien, je me rappelle de mes jeux, donc je pense que ça a dû être là aussi. Mais ce qui me reste en mémoire, c'est ouais, vétérinaire ou maîtresse, parce que j'aimais bien jouer à ça, avec mon petit frère. Et donc du coup, voilà. Et après, un peu plus grande... au collège, je dirais, c'est marrant parce que je m'en souviens bien, aux alentours de 14 ans, ouais, je devais être en troisième, je me suis dit que j'avais bien envie de devenir infirmière. Alors, j'avais des modèles puisque ma maman, elle est aide médico-psychologique, ce qui est à peu près l'équivalent de aide-soignante, parce que ça parle quand même un petit peu plus aux gens, dans une résidence pour personnes âgées. Et donc... je participais quand même régulièrement à faire des animations ou des choses comme ça. Voilà, que j'aimais bien faire ça, j'aimais bien la personne âgée. Je trouvais que c'était un public passionnant, en fait, vraiment, qui regorge d'histoires, avec voilà, plein de choses à raconter. Et je trouvais ça très, très chouette. Donc, je me suis dit, allez, hop, je vais devenir infirmière. Je sens que ça va être cool. Et donc, du coup, j'ai construit un peu mon parcours comme ça, puisque à la fin du collège, j'ai décidé donc de faire ça. Et donc, j'ai construit, on va dire, mon parcours d'études au lycée comme ça. J'ai fait une seconde générale parce que moi, dans mon lycée, on proposait pas l'équivalent à l'époque, ça s'appelait SMS, sanitaire, oui. Médico-social.
Exactement.
On proposait pas ça. Il aurait fallu que je change de lycée. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce qui me plaît vraiment à l'école? Et ce qui me plaisait beaucoup à l'école, c'était le français, l'anglais, toutes les matières qui était très littéraire, ce qui peut paraître assez paradoxal étant donné mon choix, mais pas tant que ça finalement quand après on est en études infirmières, il y a quand même beaucoup de choses autour de la réflexivité et de la lecture et de l'analyse, donc finalement ça m'a bien aidée.
Ouais, et puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi, tu vois, à commencer par moi, qui se disaient au lycée, il faut être super fort en maths, il faut être super fort en physique pour devenir infirmière, et on peut en reparler, mais c'est pas forcément vrai.
Exactement, et je suis complètement d'accord avec toi, et j'ai été très étonnée, puisque bon, j'ai fait ma première L, où j'ai passé mon bac de maths, et dans ce bac de maths, il y avait des pourcentages, des calculs, des produits en croix, il y avait que pas mal de choses autour de ça. J'étais très étonnée puisque j'ai très bien réussi mon bac de maths, mais ce n'était pas du tout mon fort. Mais étant donné que je me débrouillais quand même, en fait, je pense que j'avais beaucoup de logique. Et c'est vrai que pour les études infirmières, il faut, je pense, plus de logique qu'un réel talent de mathématiques.
Complètement.
C'est ça, c'est réussir à se projeter, à voir ce qu'on est en train de faire pour vraiment comprendre ce qu'il y a à faire quand on est ensuite infirmière. Donc du coup, voilà, j'ai passé mon bac littéraire avec une spécialité anglais. Et pendant l'année de mon bac, juste avant de passer le bac, j'ai passé les concours puisque à l'époque, voilà, c'est ancien.
On parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Voilà, moi je suis de l'ancien référentiel. Puisqu'il y a eu en 2009 un nouveau référentiel qui a un peu changé la donne, même si ça restait par concours. Je suis entrée donc par concours, j'ai passé ces 4 concours que j'ai réussi. Donc j'étais très heureuse et en même temps très très surprise parce que j'avais autre chose à faire que réviser le concours puisque j'avais quand même le bac à réviser.
Oui, bien sûr.
Et donc du coup, on va dire que j'ai fait assez simple pour préparer ce concours puisque j'ai regardé beaucoup l'actualité, je lisais un magazine qui parlait de l'actualité en santé, mais c'est tout ce que j'ai vraiment fait. Je pense que ce qui m'a beaucoup aidée, bah, c'est de se faire 7 heures de philo par semaine, de faire des dissertes, de faire des rédactions chaque semaine.
C'est
en
sûr.
Anglais, en français. Je pense que ça m'a beaucoup aidée pour, tu sais, rapidement faire un plan, rapidement mettre des idées. Voilà. Donc après, j'ai juste travaillé un peu la culture G sur le plan sanitaire et social. Et puis ça l'a bien fait. Et donc, je suis
super.
Entrée en école d'infirmière. Ouais.
Et puis aussi la rigueur, j'imagine, de l'année de terminale où finalement...
Ouais.
Bah même sans, entre guillemets, travailler vraiment pour le concours, bah en fait, tu travailles pour le concours quand même parce que t'es dans, voilà, t'es au lycée, c'est hyper exigeant, il y a plein de choses à apprendre, une grande quantité d'informations. Bon, alors bravo, le bac, les 4 concours, et c'est bon, l'entrée à l'école d'infirmière, elle se fait, t'as tout juste 18 ans alors.
Non, j'ai une année de retard, moi. Donc j'avais 19 ans.
Bon, 19, ouais, peu importe, mais t'es toute jeune.
Oui, je suis toute jeune, j'entre en école d'infirmière, jeune, comme finalement, j'ai envie de te dire, comme grosso modo 80%. Des étudiants qui entrent en institut de formation. Et je sais pas si tu as eu cette impression là toi, mais je trouve que tu as l'impression de plonger dans une piscine avec une eau pas spécialement trop froide, mais quand même dans laquelle t'es pas super confort.
Oui, c'est un grand plongeon vers l'inconnu, puis ça change tellement des années lycée, c'est radicalement différent.
Complètement, parce qu'en plus, moi, mes camarades, ils sont allés à la fac, et moi, j'étais en stage 1 mois sur 2, puisque à l'époque, ça fonctionnait comme ça. On arrivait, les 2 premiers mois, on avait des cours, et donc on avait engrangé beaucoup de cours pour, en gros, être prêt pour partir en stage, des cours d'hygiène sur la personne âgée, enfin vraiment, parce que la plupart, on allait quand même tous visiter, rencontrer les personnes âgées dans les premiers stages, au moins dans les 2 premiers. Et donc du coup il y a un vrai décalage finalement. Toi tu sors du lycée, tu t'es pas dans le, on va dire que t'es pas dans le même mouvement et dans la même dynamique que tes camarades, sauf si après dans ton groupe de copines de lycée c'est tout le monde en école d'infirmière. Là,
ouais, c'est vrai.
Pour moi en tout cas, pour ma part, c'était pas du tout le cas.
Moi, j'avais mes copines qui me disaient « Viens, on va boire un verre ce soir. » Et je disais « Bah, moi, je suis en stage jusqu'à 21h à l'autre bout de Lyon. » Enfin,
c'est
non,
ça.
Mais tu vois, c'est des choses que j'ai oubliées, mais t'as tout à fait raison. T'es déjà en décalage.
Ouais. Ah, mais complètement. Enfin, franchement, je me rappelle d'une fois où j'étais en stage. Alors moi, je venais de région parisienne. J'habitais dans le 77. C'était quand même à 1 heure de Paris. Sauf qu'on m'avait mis en stage à l'autre bout de Paris, complètement à l'opposé de la gare de Lyon. Et j'avais grosso modo 1 heure pour aller jusqu'à la gare de Lyon et après 1 heure pour rentrer chez moi. Donc ça faisait quand même 2 heures de trajet. Et en fait, l'encadrement à la crèche avait refusé que je parte plus tôt. Alors moi, j'avais proposé d'arriver plus tôt et de partir plus tôt, bien sûr. Non, il était extrêmement important qu'une étudiante de première année fasse la fermeture de la crèche. Et donc, je me suis retrouvée une nuit à 23h à gare de Lyon sans train. Parce que c'était tellement tard que je courais, mais comme une dingue. Je courais comme une dingue dans le métro. Tu sais, limite, même tu rentres dans le métro, tu remontes les quais à chaque station, tu sais, pour être le plus près possible.
Pour gagner du temps, oh là là,
complètement.
Quelle horreur.
Complètement, et donc mon père, sur ça, mes parents, ils assurent trop. C'est que mon père, il est venu me chercher à Gare de Lyon. Il était presque minuit, j'avais plus de batterie. Enfin bon, bref, c'est sacrément l'aventure, surtout quand tu viens pas de Paris et que tu te retrouves à faire tes études comme ça et d'être dans des endroits que tu connais pas du tout, où ça craint, où parfois, on me disait, surtout, tu ne sors pas ton portable. Et effectivement, il ne faut pas sortir son portable. Tu vois, t'as dit quand même, quand tu viens de la campagne, ça fait un sacré changement quand même.
Ouais, t'as aussi la réalité des grandes villes, quoi.
Ouais, complètement.
Mais des terrains de stage intéressants, j'espère, par la suite,
Oui, complètement. Ouais. J'ai vraiment eu pour ça un parcours de stage qui était vraiment, vraiment chouette. Il y a eu ce stage-là qui était très sympa, en dehors de la localisation, qui était très, très sympa. où j'avais super bien accroché avec les enfants. J'ai fait deux stages. Bon, après, j'avais orienté, moi, mon parcours de stage pour faire ça parce que c'était mon projet pro. J'ai fait deux stages en réanimation, un stage d'un mois, un stage de 3 mois. J'ai fait du SAMU. J'ai fait les urgences, j'ai fait les soins intensifs, donc ça c'est le côté un peu réa, parce que c'était pour la suite. Et j'ai fait, deux stages en médecine, deux stages en chir, j'ai fait vraiment beaucoup de stages très sympas. Même la psychiatrie c'était vraiment canon, parce qu'en plus j'étais à l'école de l'hôpital Sainte-Anne, je ne sais pas si tu connais, mais c'est
oui,
l'hôpital
de nom,
psychiatrique,
en tout cas.
Voilà. L'hôpital psychiatrique de Paris. Et du coup, la qualité des stages en psychiatrie était vraiment canon, quoi.
Et donc, tu t'orientes vers des services un peu aigus, comme ça, c'est quelque chose qui t'attire assez vite.
Ouais, très très vite. Très très vite, Alors en fait, très très vite, à l'école d'infirmière, j'ai envie de devenir cadre formatrice.
Mais... Ah, déjà à l'école d'infirmière ?
Ouais.
Ah, dis donc.
Je crois que mon deuxième suivi pédagogique, je me rappellerai toujours, elle s'appelait Nathalie, ma formatrice référente. Elle me dit, donc du coup, le projet pro, c'est quoi ? Et moi, je disais, cadre formateur. Et elle me disait, oui, mais avant, en cas de formateur. Et je disais, je vais aller travailler en réanimation. Après, je ne sais pas trop où j'irai, si ça va durer longtemps. Mais c'était assez clair pour moi que le passage du travail d'infirmière allait être court.
Ok. Ah,
je savais déjà que je voulais vite enseigner. Néanmoins, j'avais quand même conscience que pour transmettre, j'avais envie d'avoir un bagage suffisamment conséquent, quoi.
Donc, cadre formateur, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? Alors, maintenant, les choses vont encore changer parce que les études sont différentes, Parcoursup, le statut de licence, c'est encore un peu compliqué. Mais en tout cas, toi, quand tu étais dans les études, cadre formateur, ça représentait donc une formation supplémentaire avec un diplôme supplémentaire. Est-ce que tu pouvais enchaîner ça ? Donc, toi, tu n'avais pas ce souhait-là, mais est-ce qu'on peut enchaîner la formation derrière l'école d'infirmière ? Comment ça se déroule ?
Alors, pour être cadre formateur, il faut soit... Alors, deux choses, parce que c'est soit t'es dans le public, soit t'es dans le privé, et en fait, on va dire que dans le public, à un moment donné, tu passes forcément par l'école des cadres, parce qu'il y a cette histoire de titularisation, tu sais, de concours, et en fait, pour concourir au titre de cadre de santé dans le public, il faut avoir cette formation à l'Institut de formation des cadres de santé. Voilà, dans le privé, on va dire que c'est un peu différent, et je trouve que ça, c'est plutôt pas mal. C'est qu'en fait, ce qui est attendu, c'est un niveau master.
Ok.
Voilà, donc une infirmière qui, j'en ai eu des étudiantes comme ça, hein, qui dès l'année après l'école d'infirmière, se lance dans un parcours pour obtenir un master, par exemple en santé publique. Ou autre, hein, finalement, il faut juste que ça reste quand même dans le domaine du management de sanitaire et social, sciences de l'éducation. Il faut quand même rester dans les thématiques, on va dire, infirmières, qui collent avec la profession. Eh bien, tu peux très bien entrer. J'avais une collègue qui a travaillé, je crois, elle a travaillé 4 ans en tant qu'infirmière, et pendant ces 4 ans, elle a obtenu ses masters, et donc elle est venue nous rejoindre à l'IFSI.
D'accord.
Donc, comme quoi, t'es pas forcément obligé d'avoir 4 ans exactement. Tu vois, si tu fais ton master en pendant de ton activité, c'est tout à fait faisable. Moi, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai travaillé un temps donc en réanimation à Paris, à l'hôpital Lariboisière, donc une grosse réa médicale. Ensuite, vu que mon mari, c'était pas mon mari à l'époque, mais mon mari faisait médecine, quand il a passé le concours de l'internat, on a décidé d'aller à Bordeaux. Donc, on est parti à Bordeaux pour qu'il fasse son internat à Bordeaux. Et donc, j'ai poursuivi donc en réanimation médicale, mais assez rapidement. Tu sais, j'avais l'impression de tourner en rond. Ça faisait 3 ans que je faisais de la réamed. C'est hyper chouette, hein. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Mais je me disais, bon, là, il est temps que je pense à mon projet cadre. Tu vois, dès là, il faut que j'y pense. Donc, est-ce que j'ai envie d'être une cadre qui a fait que de la réa ? Je me suis dit non, allez, je vais faire autre chose. Donc, du coup, je me suis pas trop mouillée. Hein. Je suis allée en salle de réveil.
Ouais, enfin quand même, c'était un nouveau service, une nouvelle histoire.
Ouais, c'était une nouvelle histoire qui a été assez questionnante, parce que finalement, au bout de 2 mois, c'est pas que je me plaisais pas à l'activité, si tu veux, elle me plaisait, mais elle est très redondante. Tu fais vraiment toujours la même chose. Alors, le côté sympa, c'est que bah, tous les patients, ils se réveillent. Donc, à un moment donné, tu parles avec tout le monde.
C'est vrai.
mais tu les
ils
vois
mettent
pas
plus
longtemps.
Ou moins de temps à se réveiller, mais
ouais,
ils se réveillent.
C'est ça, tu les vois pas longtemps. Donc, du coup, parfois, je les recroisais, tu vois, le lendemain, quand j'arrivais au travail. Je les voyais dans l'ascenseur et tout. Je disais bonjour. Et en fait, ils te reconnaissent pas, les patients, en plus.
Donc, c'est
même
vrai.
Si
c'est frustrant.
T'essaies de tenter un petit lien. Non, c'est hyper frustrant parce que du coup... Bah, ils se rappellent pas de toi, donc tu crées pas un... En tout cas, tu crées un lien qui est à très court terme,
complètement, ouais,
très rapide. Et les gens, ils oublient ce qui se passe en salle de réveil. Souvent, quand les gens se réveillent dans leur chambre, ils pensent qu'ils se réveillent dans leur chambre.
Et alors, ça fait 2 heures qu'ils te parlent. Moi, j'avoue, ça me fait rire. Tu te dis, ils m'ont raconté toute leur vie, n'ont aucun souvenir. Mais c'est vrai que... Enfin, voilà, pour avoir travaillé longtemps en salle de réveil, c'est frustrant, quoi, cet aspect-là. Et moi, c'est pour ça que j'ai aimé aussi pouvoir coupler l'activité avec les soins intensifs, et t'en parlais juste avant, où on a plus le temps de bâtir une relation, de connaître les gens plus en profondeur. Mais alors voilà, au bout de 2-3 mois, tu te dis, bon,
je me dis là,
bien, mais pas dingue.
Je me disais, bon, bah, c'est cool, je suis confortable. C'est vrai que j'arrivais au travail, j'avais peur de rien. Enfin, ça changeait complètement de quand j'étais en réa, les débuts en réa. Où t'arrives, quand si tu vois que t'as une chambre de libre,
t'as l'épée de Damoclès au-dessus de la tête qui te fait croire qu'il y a quelque chose d'horrible qui va arriver.
C'est exactement ça, franchement. et un jour, je suis arrivée, j'avais les 3 lits libres sur mon secteur. Je crois que l'expression « j'ai serré les fesses toute la nuit » est vraiment... Et vraiment à propos, j'ai quand même fait mes 3 entrées dans la nuit, mais l'une après l'autre, donc ça va. C'était autre chose. C'est vrai que j'étais confortable. On va dire que psychologiquement, c'était pas difficile. Il y a personne qui meurt en salle de réveil. Enfin, c'est extrêmement rare. T'as assez peu à faire à des personnes qui sont en fin de vie. Il y a des histoires difficiles avec des gens qui ont des cancers, qui viennent se faire opérer suite à un diagnostic de cancer. Néanmoins, les gens, ils ont mal, donc ils sont pas du tout dans... On n'est pas trop dans la relation d'aide sur ce point de vue-là, en fait.
Complètement.
Tu soignes, t'accompagnes pour que les personnes n'aient plus mal et qu'elles se sentent plutôt confortables dans leur lit, mais...
Oui, t'es dans l'aigu déjà, t'es pas dans le chronique, ou un peu moins dans le chronique, en tout cas.
Exactement. Ouais, ouais. Donc du coup, au bout de 2-3 mois, je vais voir la cadre. Et je lui dis, il va falloir que je fasse autre chose parce que je m'embête un peu. Et du coup, elle me dit, bon, sinon, on peut avancer ton projet cadre.
Ah, elle était au courant.
Elle savait déjà que j'arrivais et que je ne resterais pas. C'était un tremplin pour la suite. Et ce qui les arrangeait pas mal parce qu'elles aiment bien, là où j'étais, elles aimaient bien que les infirmières ne restent pas plus de 5 ans. En salle de réveil, parce que quand tu restes longtemps en salle de réveil, c'est vrai que on va dire tu finis par carrément prendre tes habitudes et tout. Enfin, c'est vraiment
Et puis on te bouge plus après.
exactement. Pour peu qu'après tu fasses des enfants et tout, c'est assez confortable quand même. Hein, et je le comprends tout à fait. Et du coup, elle me dit tu vas t'inscrire à la prépa cadre. Et donc, du coup, elle m'a fait tenir en salle de réveil comme ça 1 an et demi, puisque j'ai pu faire la prépa cadre.
Ok. Ah oui, avec un peu la carotte au bout du bâton.
Ah ouais. Après, j'aimais beaucoup mes collègues. C'était pas le bagne. Hein.
Je comprends ce que tu veux dire.
J'ai beaucoup ri. Et puis, c'est important pour moi de rire au travail. Donc, je me suis quand même amusée. On va dire qu'intellectuellement parlant, c'était plus mou. Mais sur le plan de la relation entre collègues, c'était très très sympa, franchement.
Mais confortable, quoi.
Exactement. Non, franchement, c'était vraiment chouette. Donc du coup, j'ai fait cette prépa cadre et j'ai tenté le concours à Bordeaux et j'ai retenté le concours à Paris, à Sainte-Anne, là où j'avais fait mes études, et j'ai obtenu, j'ai été reçue à Sainte-Anne, pas à Bordeaux. Donc, du coup, je suis retournée chez mes parents pendant toute une année. pendant que mon époux était à Bordeaux, puisque lui, il avait son poste.
il pouvait pas bouger. Hein. Ah, ouais.
Bah non, il était dans son poste d'assistant. Quand tu démarres, t'es parti pour 2 ans, quoi.
Ouais, c'est sûr. Et toi, cette prépa, elle est, je trouve pas le terme, mais elle est intégrée dans le sens où tu ne la finances pas. C'est l'hôpital dans lequel tu es qui te finance et qui organise aussi tes journées de travail pour que tu aies du temps...
Ouais, je crois
pour
que c'est
aller aux différents cours.
Je crois que c'est bien la seule chose qu'on m'ait financée pendant que j'ai, à partir du moment où je suis devenue professionnelle, parce que effectivement, ouais, ça a été financé par l'hôpital et c'était à hauteur, je crois, de 2 jours par mois, quelque chose comme ça.
Ok.
Et donc ces 2 jours-là, j'étais en formation, enfin j'étais étiquetée sur le logiciel,
sur le planning,
du temps,
ouais,
le planning, en formation, donc sans perte de salaire.
Ok, bon, c'est déjà
oui,
une bonne
c'est
chose.
bien. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien, carrément. Et
Ok.
pour l'école des cadres ensuite, vu que j'ai été reçue, on m'a demandé d'attendre 2 ans. Donc on m'a dit, tu vas, si tu veux bien, Sabrina, tu vas être faisant fonction de cadre de nuit.
Ah.
Ouais, mais ça se fait beaucoup ça à l'hôpital public, hein.
D'accord.
Ouais, d'être faisant fonction de cadre, c'est-à-dire que tu es infirmière et tu es sur un poste de cadre. Payée en tant qu'infirmière, bien sûr,
C'est ce que j'allais te demander,
c'est
ouais.
ça,
Bah ouais.
avec une prime d'encadrement. Ça, c'est le côté positif, je pense, puisque finalement, pour la direction, c'est un peu un moyen de se rendre compte si les personnes sont faites ou pas pour cette fonction.
Absolument.
Néanmoins, tu sais, moi, j'aime pas trop attendre. La patience et moi, ça fait 18. Et donc, j'ai dit, non, moi, je m'en vais. Donc, j'ai vu les résultats, c'était resté en juin. Et j'ai dit, du coup, ma rentrée, c'est le 8 septembre. Donc, le 7 septembre, il faut que j'arrête de travailler.
Ok.
Et voilà, donc j'avais quelques jours à prendre. Donc, on m'a donné quelques jours. Et puis, je suis partie. Ça s'est fait très facilement. Après, mon projet, ça faisait longtemps que ça apparaissait sur mes évaluations. Donc bon, il n'y a pas eu de surprise.
Ouais, ça sortait pas de nulle
Ouais.
part.
Et puis je m'étais dit, je reviendrai, tu vois, après l'école des cadres, je reviendrai. Franchement, on habitait juste à côté de l'hôpital. Mais écoute, porte à porte, porte de chez moi, porte du vestiaire, 7 minutes à pied.
Oh là là, le rêve.
Donc vraiment, et sans être vraiment dans l'hôpital, tu vois, enfin, t'as pas l'impression de vivre à l'hôpital non plus. Mais...
La bonne distance.
Ouais, vraiment la distance parfaite.
Où tu vois pas le service depuis ta fenêtre.
Exactement, exactement. Je voyais pas chez moi quand je regardais par la fenêtre. Mais ouais. Du coup, je me suis dit, je reviendrai. Bah du coup, ou pas. Mais je reviendrai.
Spoiler,
du coup,
ou pas.
Voilà. Et du coup, je suis partie à l'école des cadres en
okay.
septembre 2013.
Alors, cette école des cadres, tu t'engages pour 1 an, du coup?
Ouais, 10 mois.
10 mois,
de
ok.
De septembre, du coup, à fin juin.
Ok.
C'est ça, on finit fin juin.
Une formation bien intensive, du coup,
ouais,
j'imagine.
Ouais, surtout qu'en plus, elle était couplée à un master, du coup. Et
ah,
moi,
oui.
j'ai fait un master à l'Université de Marne-la-Vallée qui dépendait de l'école où j'étais. Hein. On faisait soit sciences de l'éducation, soit management. Et donc, j'ai choisi management. Parce que je m'intéressais déjà aux sciences de l'éducation, donc en fait personnellement je me cultivais déjà sur les contenus du master de sciences de l'éducation.
Okay.
Et donc du coup dans la même année il y avait certains crédits ou unités d'enseignement qui se regroupaient avec les modules de l'école des cadres et il y a eu des choses en plus où on a été à la fac pour faire des travaux qui étaient universitaires.
D'accord. Qu'est-ce qu'on aborde pendant cette année de formation? Parce que du coup, toutes les personnes qui sortent de l'école des cadres ne vont pas faire le même métier.
Ouais.
Je suis curieuse de savoir comment est-ce qu'on arrive. Alors, il y a ce master qui est couplé, mais comment est-ce qu'on arrive à vous donner quand même une image de toutes ces casquettes que vous pouvez avoir à la fin des études?
Il y a plusieurs modules. Et finalement, en fonction des modules, tu vas aborder des choses différentes. Dans le module 1, il me semble qu'on avait fait de la santé publique, on avait travaillé aussi tout ce qui était autour de l'entreprise, de la gestion. Alors, entreprise, du coup, hôpital. Hein.
Oui, oui.
L'hôpital, ça fonctionne comme une entreprise, hein, finalement. Si ce n'est que quand on dépasse les budgets, ça passe mieux que dans une entreprise normale.
Et puis, si on est un peu en déficit, ça fait longtemps qu'on y est. Donc.
Exactement. Exactement. On a un module du coup de management. J'étais très étonnée qu'on n'ait pas de. On a assez peu d'apports sur tout ce qui est communication en équipe. On a vu des choses. Hein.
D'accord.
On a abordé certaines choses. Et l'avantage qu'il y avait, c'est qu'on avait aussi des travaux où on analysait nos pratiques avec des situations dysfonctionnelles. Et là, du coup, ce qui était intéressant, c'est que ça permettait d'aborder ça, la façon de communiquer, comment on communique en équipe. Par exemple, on n'a pas fait, c'est marrant parce que tout le monde me dit ça, tu as fait des cours de planning? Pas du tout. On fait pas du tout. On fait pas du tout de cours de planning. Par contre, il y a des choses qu'on voit vraiment en long, en large, en travers, tout ce qui est autour de la démarche qualité, de comment ça fonctionne, la qualité des soins, tout ce qui est autour de la certification. Donc, la certification, c'est les points obligatoires à atteindre dans le fonctionnement, dans l'organisation d'un service et donc de l'hôpital en général, avec des points de surveillance sur les circuits du médicament, des choses comme ça. Mmh. Donc ça, on l'a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a fait de l'économie, on a fait aussi des sciences de l'éducation. Mmh. Ça, j'ai bien sûr adoré, c'était génial. et il y a eu quand même sur ces 10 mois, donc sur les 10 mois, tu as 2 semaines de vacances et il y avait quand même 4 stages.
Donc, d'accord.
J'ai fait un stage en entreprise. Alors là, franchement, j'ai découvert encore une autre vie parce que quand tu n'es pas de ce milieu-là, tu découvres plein de choses. J'ai fait un stage en restauration, manager dans la partie restaurant d'un hôtel. Franchement, j'ai cru mourir. Ça, franchement, et pourtant, tu vois, les 12 heures en réa quand t'es debout et que tu vas pas faire pipi et que tu manges pas et tout.
Tu dis, il y a difficilement pire, mais et pourtant.
Ah ouais, et pourtant, franchement, 8 heures de service, tu mets la table, tu poses les chaises, tu poses les tables, enfin, la mise en place, ensuite servir les gens, ensuite débarrasser. J'ai fini en pleurs au bout de 6 ou 8 heures, je me rappelle, dans un coin. Mais un niveau de fatigue incroyable. Mmh. Donc, comme quoi, il y a aussi d'autres métiers qui sont difficiles. Et souvent, on me disait, mais attends, quand tu étais infirmière, tu tenais physiquement? Je dis, oui, je tenais physiquement, mais ça n'avait pas le même sens pour moi.
Ouais, c'est sûr.
Parce que tu es debout, tu es en train de soigner les gens, en fait. Tu es en train de tout faire pour qu'ils sortent de l'hôpital, pour qu'ils s'en sortent. Mmh. Là, je dirais pas que les gens méritent moins ma considération, mais tu es en train de servir à manger. Parfois, les gens te parlent, mais au secours.
Ouais, ouais.
Ah non, mais franchement, la considération qu'ont les personnes, les serveurs, moi j'étais très hallucinée de la façon dont les clients parfois parlaient. Il y a des gens très très sympas, hein, c'est la majorité.
Mmh.
Bien sûr.
Mais il y en a qui sont très méchants.
Ah ouais, franchement, c'était assez hallucinant. Alors, j'ai pas pris de remarques, mais j'ai entendu des remarques qui m'ont, franchement, qui m'ont interpellée, quoi.
Ouais, et puis là, tu dis, ouais, puis on sauve pas des vies, quoi. Enfin, les gens sont...
C'est ça. Mais c'est exactement ce que je me suis dit.
Méchants comme ça, quoi. Ouais.
Mais les gars, vous êtes pas en train de mourir, vous êtes juste en train de demander une assiette avec un risotto, quoi. Enfin...
Ouais, ça remet un peu les trucs en place. Tu dis, waouh, là, quand même, on n'y est pas.
Ouais, ton risotto, il est un peu froid. Bah, tu peux demander gentiment. Excusez-moi, exactement. Mon assiette est refroidie. Est-ce que vous pourriez me la réchauffer? C'est pas incroyable, quoi. Mais bon, écoute, c'est un monde particulier.
Donc vous faites des stages du coup dans le domaine privé aussi alors.
Ouais, et ce qui est assez intéressant, c'est de se rendre compte que les dysfonctionnements d'équipe ailleurs qu'à l'hôpital sont les dysfonctionnements d'équipe de l'hôpital.
C'est vrai. Là, c'est la même histoire qui se répète sous une autre forme.
Bien sûr, c'est une histoire d'humain finalement. Mm. C'est une histoire d'humain ensemble qui évolue ensemble avec. Peut-être, je dirais, quelque chose qui ressemble pas tout à fait, c'est que souvent, il y a beaucoup d'extras, des gens qui viennent de l'extérieur travailler. Mmh. C'est comme si on avait un service où t'as, je sais pas, sur la journée, t'as 6 infirmiers, et puis t'en as que 2 fixes et 4 intérimaires, quoi.
Ouais.
Tu vois, t'as un peu ce côté-là. Mmh. Et du coup, c'était ça, la petite différence. Mais sinon, j'ai trouvé que ça se ressemblait beaucoup, avec un côté aussi un peu plus dur, c'est-à-dire que le manager, quand il parle au serveur, et c'est mes camarades ont relevé ça aussi, c'est qu'on n'est pas du tout dans les mêmes styles de communication. Je trouve que les cadres, alors peut-être tous les cadres ne sont pas comme ça, bien sûr, mais il faut quand même mettre les formes. Est-ce que tu peux venir remplacer, s'il te plaît, tu vois? Et en échange, je te donnerai ça. Là-bas, ils se prennent pas la tête. Hein. C'est demain, il y a du taf, tu viens? Oui, ok.
Ah oui, on ménage un peu moins les susceptibilités.
Ah ouais, vraiment je me suis dit, waouh, eh ben dis donc, moi, je vais te dire, tu me parles comme ça, je te dis non direct.
Eh ben, je viens pas.
Ah non, mais c'est clair. Mais vraiment, c'était ça les grandes différences. Et puis, du coup, mais c'était sympa parce que c'était très apprenant ce stage de sortir finalement du milieu hospitalier.
Puis tu te rends compte que toutes ces situations, tu peux les transposer finalement à des choses qui se passent à l'hôpital. Ouais. Ah, ça, c'est intéressant.
Ouais, complètement. Et puis après, il y a eu un stage. J'ai fait un stage d'école des cadres en réanimation. C'était fait exprès parce que mon mémoire de master était en lien avec l'intégration des jeunes diplômés infirmiers en réanimation.
Ah, génial.
Donc j'avais fait exprès de faire ce stage-là. J'ai toujours pensé stratégie, c'est très important.
Mais oui, mais je vois ça. Mais quelle fine stratège.
Bah ouais, j'aime assez bien m'économiser l'effort de parcourir la France pour trouver des personnes à enquêter. Et voilà, ensuite, c'était très sympa aussi ce stage en réa, côté cadre, ça m'a vraiment changé. Ça m'a montré quand même que, à ce moment-là, je me suis dit, oh là là, mais moi, je vais pas travailler en tant que cadre sur le terrain, ça a l'air chiant. En fait, ce côté, tu sais, et ça prend beaucoup de place quand même. Je sais que c'est pas la majorité du travail de cadre, mais ça prend beaucoup de place, c'est la partie contrôle. Et là, t'as l'impression d'être à l'école, quoi. Tu sais, de dire, vous avez pas noté la température du frigo. Enfin, tu vois, qu'est-ce que c'est pénible.
Moi, le côté un peu caporal, quoi. Hein, c'est un peu.
Ouais.
Bon, puis pour en avoir vu plusieurs, selon les cadres, y a certains qui tombent un peu dans ce rôle-là, et puis d'autres qui essaient d'en sortir. Mmh. Mais est-ce que tu peux nous dire rapidement, du coup, après cette école des cadres, après l'obtention de ton diplôme, vers quel. Parce que des cadres infirmiers, finalement, il y en a partout. Enfin, partout, il y en a vraiment à plein d'endroits différents. Est-ce que tu peux nous faire un petit aperçu des différents rôles que tu peux avoir?
Alors du coup, effectivement, soit tu travailles ce qu'on appelle sur le terrain. Donc sur le terrain, c'est soit sur le terrain sanitaire, donc là tu es plutôt à l'hôpital ou en clinique, sur soigner les gens, on va dire, de façon plus active. Soit tu peux être cadre de terrain dans le social, et donc là tu soignes aussi les gens, mais c'est quand même différent puisque t'es plutôt sur des lieux de vie et t'accompagnes plutôt des projets de vie que des projets de soins, si on peut parler comme ça. Et il y a de l'autre côté donc les cadres qui sont en formation. Et après en formation, c'est en école d'infirmière, en école d'aide-soignant, en école d'auxiliaire puère. Ça c'est quand tu viens de la filière infirmière. A priori, c'est ces trois-là que tu peux faire. Il n'y a pas de raison pour ne pas aller ailleurs. Tu vois, il y a rien qui interdit d'aller ailleurs, mais dans la pratique, ça se fait assez peu.
Ok. Légitimement, tu te retrouves dans ces métiers-là, quoi.
En même temps, ce qui est assez difficile, t'imagines si tu te retrouves dans une école pour les manips radio. C'est pas ton métier initial, c'est quand même difficile de transmettre et d'accompagner les gens à apprendre des choses sur un domaine que tu ne connais pas du tout. Alors, tout s'apprend, on est d'accord. Et souvent, on dit que le cadre formateur, c'est un expert en pédagogie. Alors oui, mais je trouve que, tu vois, typiquement ici, ça a ses limites.
Je suis d'accord.
Faire des formations avec des métiers que tu connais pas du tout, je trouve que c'est difficile.
Ouais, c'est transmettre, mais c'est aussi transmettre son savoir. Ouais. Alors oui, tout s'apprend, mais on est quand même mieux placé pour parler de ce qu'on connaît, quoi.
C'est ça, exactement. Et souvent ce que j'appelle les stagiaires, donc c'est les gens qui sont là, qui t'écoutent quand tu fais une formation, ou les étudiants, ils aiment bien les anecdotes, quoi.
Bien sûr. Que des souvenirs comme ça à l'école d'infirmière, quoi.
Ce qui te nourrit. Ce dont tu te rappelles, c'est les. Enfin, en plus, moi, je suis très attachée aux histoires, et donc c'est vrai que ce dont tu te rappelles, ce sont les histoires. Souvent.
Toi, dès le départ, c'est assez clair que cette formation, tu l'as fait pour devenir formatrice.
Ouais, c'est très très clair. Par contre, pendant la formation, on nous dit surtout n'allez pas en école d'infirmière tout de suite, parce que sinon, vous n'en sortirez pas.
Ah, ça m'arrange pas.
Exactement. Et du coup, je me suis dit, je fais quoi? J'écoute pas. Donc, je suis repartie, je suis retournée à Bordeaux, j'ai cherché un poste. J'ai pas trouvé ce qui me plaisait. J'ai obtenu un poste dans une clinique, mais j'ai démissionné au bout de 7 jours parce que j'étais pas du tout alignée avec les valeurs de la clinique et de la direction qui accompagnait le personnel avec des valeurs qui ne me correspondaient pas. Donc, du coup, j'ai préféré très rapidement partir.
Je me dis, si en 7 jours tu t'en es rendu compte, c'est que ça devait vraiment pas être aligné avec ce que tu voulais, quoi.
Ah, mais on m'a fait des trucs, mais je sais pas si. Ça faisait 2 jours que j'y étais et on me dit. Donc j'étais sur 4 services, MED, CHIR, SSR et je ne sais même plus l'autre, j'ai oublié. Et en fait, sur la CHIR, on me dit, tu veux combien d'infirmières pour la semaine prochaine? Et je regarde le programme opératoire et je dis, avec 15 patients, moi je veux bien une infirmière et 2 AS. Parce que sur les 15 patients, c'était 7 blocs et 7 qui étaient là, qui étaient encore là. Et en fait, arrivé la veille, je vois qu'en fait, le service, il n'y a pas 15 patients, il y en a 22.
Oh,
Donc je reviens le lundi, c'était pour le mardi. Et du coup, je dis, bah là, ça va pas le faire, il me faut une infirmière, il faut qu'on appelle l'intérim. Enfin, je vais pas faire bosser la fille avec 22 patients, 2 aides.
Ouais, pitié, quoi. Ouais.
Ça n'a aucun sens. Et on me répond, ah bah ça, c'est ta faute, hein, fallait y penser avant. Et je dis, bah en fait, sauf que moi, je peux pas savoir que les chiris rajoutent des gens si personne ne me le dit.
Ah, mais c'est
et
horrible.
En fait, on m'a fait ce coup-là. Donc le lendemain, j'ai fait l'infirmière. Bah, qui est normal.
Bah oui, forcément.
Normal. Sans blouse, hein. Donc les filles, elles me disaient, tu peux aider à faire une toilette? Je fais, bah non, les filles, je vais pas faire une toilette, je suis en civil, quoi. Donc j'ai fait la tournée des médocs, j'ai fait la tournée des paramètres vitaux, j'ai posé des perfs en veux-tu, en voilà, enfin, avec juste ma blouse et tout, donc j'ai fait le max. Et le lendemain, on m'a refait un autre coup, on m'a dit qu'il fallait que j'emmène une patiente au scan, donc j'emmène une patiente au scanner qui était dans un état, je te dis pas l'état, et je dis au médecin, bah tu viens avec moi, enfin la patiente elle a 7-4 de tension, elle est vraiment pas bien, quoi. Et il me dit non, tu vas partir. Donc je suis partie avec dans ma poche des médicaments d'urgence, l'adrénaline, du remplissage, donc pour au cas où elle chute encore sa tension. Donc je suis partie avec des trucs comme ça. Et dans l'ascenseur, j'étais avec mon brancard, mon scope et tout. Et dans l'ascenseur, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'es en train de faire, ma grande? Là, si ça se passe mal, tu te sécurises pas. Alors bien sûr, j'avais mon expérience et je savais quoi faire si ça va pas. Et puis, on est quand même protégé, on va dire, que par le code de la santé publique, il dit que si t'es seule avec un patient et qu'il n'y a que toi qui dois faire les choses, bah, tu peux le faire. Mmh. Donc, j'avais pas peur de pas savoir faire, parce que je savais faire. Néanmoins, je me disais, mais là, t'es en train de prendre des risques inconsidérables dans une organisation qui te convient pas, quoi.
C'est ça. Il y aurait 1000 autres solutions pour que ce transfert, il se déroule bien. Exactement. Et là, les conditions sont horribles, quoi. Ah ouais.
Exactement.
Quand tu dézoomes un peu, tu te dis, qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi.
Ah ouais, grosse prise de conscience dans l'ascenseur. Et du coup, je reste avec la dame pour son scanner. Je la ramène dans sa chambre, je la roscope, je fais les transmissions écrites, je fais les transmissions orales, je monte dans mon bureau, j'écris madame.
Ouais.
Donc ça faisait, ouais, j'avais fait en effectif, je crois que j'avais fait 6 jours ou 7 jours, un truc comme ça. Donc je pose madame, je descends la direction et je dis que ça va pas le faire, que je ne peux pas rester dans un travail dans ces conditions. Je suis pas en sécurité, j'ai pas ni envie de perdre mon diplôme de CAN ni mon diplôme infirmière, j'ai pas envie d'aller en prison pour des choses pour lesquelles je suis pas responsable. Bon, j'exagère, j'ai surtout pas envie que quelqu'un meure, quoi. Enfin, c'est surtout ça qui me fait peur. Et voilà, ouais, je me sens pas en sécurité. Donc, je m'en vais. Et à ce moment-là, je cherche un poste plus loin. On décide avec mon mari. On se dit, je trouve rien qui me plaît ici. On repart à Paris, parce qu'on était originaire de Paris. Et donc, du coup, j'ai pris un poste dans une réanimation pédiatrique, dans un grand hôpital parisien.
D'accord.
Et donc, j'ai pris ce poste-là, là-bas, en 2015.
Okay.
Voilà. Et là, pour le coup, là, il y a de la sécurité. Là, il y a quand même des valeurs. On est sur autre chose. J'ai été super bien accueillie. C'était plutôt sympa comme boulot avec une équipe, mais extraordinaire. Tu vois, il y a une centaine de personnes qui travaillent, des gens passionnés, qui cherchent tout le temps à se former, qui cherchent toujours, tu vois, à s'améliorer. Enfin, vraiment. Alors, je dis des nanas, mais parce qu'il y avait surtout des filles, mais. Ouais, des personnes extraordinaires. Franchement, des soignants comme j'ai jamais vu, quoi.
Donc là, on est en 2015, et le projet de rejoindre un institut de formation, il est toujours
Là.
Dans un coin de ta tête.
Ouais, il est toujours là. Je me suis dit que cette réaped, c'était un tremplin. Pendant ce temps-là, je suis tombée enceinte, et donc j'ai eu mon fils j'ai accouché en juillet 2016. Je me suis arrêtée assez vite, à 23 semaines d'aménorrhée, donc quand même assez tôt dans la grossesse. Je pense que j'étais très stressée. En fait, j'ai été très bien dans ce boulot pour plein de raisons, mais j'ai été aussi harcelée au travail par un supérieur. Et du coup, quand j'étais enceinte, à un moment donné, je me suis dit non, mais il en va quand même pas que de ma santé. Donc je me suis arrêtée rapidement. En parallèle, j'ai fait du coaching avec un psy qui m'a coachée. Et ensuite, je me suis lancée dans une thérapie, ce qui m'a beaucoup aidée à me relever de ce harcèlement. J'étais pas tout à fait au fond du seau, mais j'avais presque les pieds au fond du seau. Donc, du coup, ça m'a aidée.
Donc,
bien
c'était le moment d'agir.
Ouais. Ça m'a bien requinquée pour en plus vivre ensuite ma grossesse vraiment... très bien, ouais, sereinement, j'étais bien. Et donc, quand j'ai eu mon fils, après, quand je suis retournée au travail, sont arrivées des difficultés que je ne soupçonnais pas. C'est-à-dire qu'avant, entendre les bruits des pleurs de bébé, ça ne me gênait pas. Et en fait, je me suis retrouvée, le bureau des cadres était en plein milieu de la réa. Et on avait toujours la porte ouverte parce que, bah, il faut bien que les soignants, ils s'arrêtent quand ils ont envie, quoi. Si tu fermes la porte, tu t'arrêtes moins.
Ah donc, bah, clairement. Ouais. Enfin, le message est assez clair, quoi. Ouais, tu vois, physiquement, la porte fermée, ouais. Non, mais pour ça, l'avoir exactement. Vécu, il y a des choses comme ça que tu, il y a des seuils de porte que tu ne franchis pas, quoi. Ouais.
Voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, des fois, j'entendais des pleurs de bébé, j'avais l'impression que c'était mon fils. Enfin, c'était, du coup, ça devenait lourd. Alors, je faisais pas de transfert en me disant, il va m'arriver la même chose. Et heureusement, parce que vu les drames qu'il y avait, avec vraiment des choses. Des bébés noyés dans le bain, enfin des trucs vraiment
accidents domestiques quoi, ce genre
des
de
accidents
choses.
Domestiques, des alors, on n'avait pas de bébés secoués parce qu'ils allaient dans l'autre réa, mais des histoires souvent lourdes ou des maladies longues chez des enfants avec des cancers ou des maladies rares et c'était assez difficile quand même finalement. Les bébés je les voyais pas trop parce que j'entrais dans les chambres mais je m'occupais pas des bébés. Par contre je m'occupais pas mal des parents en fait parce que je les
Bien
voyais
sûr.
Beaucoup. Que la salle d'attente, la salle de pause des parents était à côté de mon bureau, que l'équipe, elle a pas forcément le temps de passer du temps avec les parents, donc il faut faire ce travail-là aussi, quoi, c'est normal. C'était pas simple. Et c'est vrai que du coup, quand j'ai repris le travail après Joshua, je me suis dit, là, il va falloir que je m'active à chercher autre chose, quoi. Et donc, du coup, ma titularisation de poste arrivait 4 mois après. Je me suis dit, j'attends ma titularisation. Parce que j'étais en phase de stagiérisation à ce moment-là. Et donc, du coup, dès que j'ai été titulaire, j'ai postulé dans un IFSI pas très loin de là où j'étais. Et un IFSI que j'aimais beaucoup déjà avant. Avant, j'aimais bien recevoir les étudiants qui venaient de cette IFSI-là.
Ah,
on va dire qu'il y avait une certaine rigueur qui me plaisait bien chez ces étudiants, ouais. Avec des formateurs qu'on voyait, tu vois, les formateurs, on les voyait sur le terrain. Donc ça, pour moi, c'était important. Parce qu'on avait aussi des étudiants où on ne voyait jamais les formateurs. Jamais, jamais, tu vois, on ne l'a jamais rencontré. Et donc, quand c'est 10 semaines de stage, tu ne vois jamais personne, tu n'as jamais un coup de téléphone.
Ouais.
Même si ça se passe très bien, tu vois, c'est pas la question.
Bien sûr, bien sûr.
Mais ça en dit long, en fait, de la qualité de l'accompagnement des étudiants, je trouve.
Complètement, complètement. Et puis finalement, chaque institut de formation a un peu ses valeurs, et puis c'est des choses qu'on retrouve derrière.
Ouais. Complètement.
Moi, c'est quelque chose que je soupçonnais pas, et en fait, je me suis rendu compte que chaque école d'infirmière avait un peu ses valeurs, et que ça se retrouvait, même dans les soignants, je trouve, par la suite.
Ouais, complètement. Non, mais vraiment, hein. C'est totalement vrai ce que tu dis. Et donc, du coup, j'ai postulé là-bas et j'ai été tout de suite recrutée. On va dire que la personne qui n'était pas cool avec moi, là où j'étais avant, a essayé de me retenir en mode « Tant qu'on ne te remplace pas, tu pars pas. »
Mais bien sûr.
Et je lui ai dit « Bien sûr, ça tombe bien, c'est pas toi qui décides.
» Oh, punaise. En plus, c'est un peu du management toxique, quoi. Enfin, c'était la cerise sur le gâteau, quoi.
Complètement. Et... je suis partie assez rapidement finalement, puisque du coup j'ai dit que je postulais. Quand j'ai eu le poste à l'Institut de formation, c'était en octobre et j'ai terminé fin novembre en réaped. Et il fallait que je prenne mais un mois de vacances. Et vu que je faisais la bascule public-privé, j'avais pas le droit de travailler avant.
Avant que le contrat soit complètement fini.
Ouais, c'est ça. J'avais des jours à prendre, donc il fallait que j'écoule mes jours. Pour pouvoir reprendre. Donc en janvier 2018, je suis arrivée en IFSI.
Et alors, ça, je suis curieuse de savoir, toi, comment tu te sens, quoi ? Parce que c'est une sacrée... tu vas me dire cadre en service aussi, c'est une sacrée responsabilité, mais je le vois vraiment comme un autre rôle, quoi.
Ouais, on est vraiment dans autre chose. Surtout que quand tu accompagnes des professionnels, alors il y a parfois, tu as un rôle un peu maternant, hein, genre il y a un truc qui est cassé, on vient de voir, limite, maman, le poussoiringue est cassé, tu vois.
C'est vrai, c'est vrai.
Il y a ce côté-là, mais vu qu'il y a des procédures, tu accompagnes vraiment les gens à être autonomes et assez rapide. C'est assez rapide, ils comprennent vite, tu n'as pas besoin de leur dire 50 fois. Ouais, ouais. En IFSI, il se joue quand même quelque chose dans la relation qui est différent, puisque il y a quelque chose, souvent j'appelle ça la séduction, mais c'est pas la séduction au sens de sensualité. Il y a, et moi je ressentais ça déjà quand j'étais étudiante, tu essayes de faire plaisir à ton formateur quand même. Tu vois, il y a quelque chose là-dessus. Et du coup, moi je me sentais quand même vachement investie dans ce côté où il faut quand même leur montrer le bon exemple. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de l'ordre de l'admiration. Alors, je dirais pas que je suis un modèle, mais tu as vraiment ce côté-là. Ce côté admiration qu'ont les étudiants et du coup bah ouais, il faut en prendre soin, tu vois, c'est quelque chose qui est précieux en fait, cette relation là et leur amener le dialogue, une qualité de communication, moi je trouve ça génial. Ce que j'ai trouvé hyper chouette aussi, et c'est vraiment ce qui me plaît le plus en UFSI, c'est que ça demande vraiment beaucoup beaucoup d'adaptabilité en fait, vraiment il faut beaucoup s'adapter dans ce boulot-là, parce que on demande aux étudiants d'être autonomes, on leur demande beaucoup de choses. Hein. Clairement, franchement, je par rapport à, on va dire, à moi, mon époque, ça fait très vieille de dire ça comme ça. Mais...
Non, mais je suis complètement d'accord.
Jadis, on nous en demandait pas autant.
Moi, je trouve qu'on nous fournissait beaucoup de choses. Il y avait une très grande quantité de travail, mais j'ai l'impression que le travail nous était... tu sais, c'est comme si on te donnait des manuels et qu'on disait « faut apprendre ça ». Et je trouve que maintenant, je sais pas ce que t'en penses, mais on invite les étudiants à faire leurs recherches par eux-mêmes et puis à devenir un peu acteurs de leur formation, plus que nous à l'époque.
Beaucoup, beaucoup plus. Je suis complètement d'accord avec toi. Après, c'est vraiment ce qui est prôné dans ce référentiel depuis 2009, c'est ce qu'on appelle la posture réflexive. Et donc, effectivement... on accompagne les étudiants à être des professionnels réflexifs, beaucoup plus que quand moi j'ai fait mes études, puisque en fait, nous, effectivement, comme tu dis, on apprenait, et puis après, on faisait nos liens. Là, en fait, ils apprennent beaucoup, hein, les cours de fac sont très denses, il y a des choses comme ça, tu vois, ils suivent la plupart des facs en France, ils suivent les cours sur des podcasts, et c'est même pas des vrais podcasts, hein. c'est des slides qui passent avec une voix enregistrée dessus. Donc, ce sont des PowerPoints sonorisés. Et en fait, advienne que pourra, ils se débrouillent avec ça. Donc, des fois, ils ont des cours, t'as 200 slides, et débrouille-toi avec ça. sur le papier, les slides, ça dure, je sais pas, 20 minutes. Et il y a quand même beaucoup de médecins qui leur font cours, puisque ce sont des médecins qui font ces cours-là. Qui leur font cours, en fait ils utilisent leurs cours pour les internes ou pour autres que pour les infirmières, et en fait ils vont passer des slides, tout n'est pas toujours fait pour que ce soit facile pour eux, donc du coup ils ont beaucoup de recherches à effectuer, ça je suis d'accord avec toi. Et après ils ont des TD, mais tu vois les TD on les fait pas sur tous les cours. Quand on fait des travaux dirigés, par exemple tu prends une unité d'enseignement, le processus obstructif, tu vas faire 4 travaux dirigés sur l'AVC, sur l'embolie pulmonaire, sur l'asthme. Donc, on va faire plusieurs pathos. Sauf qu'on va traiter, allez, 4-5 pathologies. Mais eux, dans leur cours, je sais pas, ils ont une trentaine. Donc, en fait, on n'approfondit pas de la même manière les cours qu'ils ont. Ce qui est normal, le référentiel ne permet pas d'en faire plus. Donc, on va dire qu'il y a quelque chose. On suit le référentiel, en fait. On est quand même souvent bloqué, même quand on organise l'année. Bah, y a des heures qui sont allouées à certaines UE et tu ne peux pas déroger comme tu veux, quoi.
Bien sûr. Ouais, et puis c'est 3 ans, hein, c'est timé. Au bout des 3 ans, il y a le diplôme.
Complètement.
Quoi.
Complètement.
Qu'est-ce que tu penses de la durée d'études ?
Moi, je pense qu'il manquerait un peu du temps, clairement, parce qu'il y a des choses qu'on leur fait faire seules. Tout ce qui est autour de... moi, je trouve que ça manque beaucoup. Des théories de l'apprentissage, apprendre à apprendre. Typiquement, on ne t'apprend pas au lycée à apprendre. Tu ne sais pas apprendre. Quand on sort du lycée, on apprend, si on se fait des fiches, peut-être qu'on est super doué tout seul et qu'on a appris tout seul à apprendre. Je ne sais pas, par exemple, tu as su que quand tu écris, tu retiens bien, et puis après, quand tu récites, tu retiens bien. Enfin, tu vois, tu as trouvé tes méthodes. Oui. La plupart des étudiants, quand ils arrivent à l'IFSI, ne savent pas apprendre, ne savent pas réviser, ne savent pas faire une fiche. Et du coup, il se passe tout le semestre 1, qui est extrêmement dense, puisqu'il y a, je crois, 14 unités d'enseignement. Il y en a vraiment beaucoup, c'est très, très lourd. Et c'est en fait, écoute, tu vas y arriver, t'inquiète pas. Alors, il y a une unité d'enseignement qui est sur les... qui parle un petit peu de ça, mais tu peux pas... je crois que c'est la 6 points où tu as des choses en lien avec l'apprentissage, mais tu peux pas leur faire un cours sur comment on fait une fiche et comment on apprend. Par contre, il y a un truc qui est assez étonnant, c'est que souvent on leur dit, alors vous êtes plutôt quoi, vous, auditif, visuel? Sauf que ça, excuse-moi du mot, mais c'est vraiment du bullshit, quoi. C'est vraiment, les sciences de l'éducation, elles prouvent, elles ont prouvé par des études scientifiques très sérieuses, des gens qui ont fait des thèses là-dessus. En fait, quand tu es auditif, tu n'apprends pas que avec l'oreille. Les meilleurs étudiants, les étudiants les plus performants, sont les étudiants qui varient leur voie d'apprentissage.
Ah, d'accord, ok.
Donc, en fait, tu écris, tu lis, tu écoutes peut-être des vidéos, des podcasts, tu vois, souvent, c'est ce que je leur dis. Et surtout, tu récites à ton mur, t'expliques à quelqu'un, et c'est en faisant tout ça que tu retiens durablement.
D'accord. Donc, il ne faut pas se focaliser sur un axe, une voie, quoi. Oui, mais ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on entend.
Ah oui, non, franchement.
Ah, mais toi, tu es plus visuel, genre tu vois ton cours sur une feuille ou tu entends ton prof te réciter le cours, tu es là-bas, je ne sais pas.
Non, que répondre? Souvent, c'est en faisant beaucoup de choses à la fois. Enfin, parce que tu en as... Oui, moi, si j'écoute seulement, ça suffit. Ok, bah, tu écoutes seulement, ça suffit. Mais qu'est-ce que... le soir, il faut que tu le retravailles. Parce que si tu n'en fais rien le soir même, ni deux jours après... Mais en fait, la courbe de l'apprentissage, elle te montre bien que en fait, à J0, tu peux être tout en haut. Dès le lendemain, tu as perdu la moitié. Le surlendemain, enfin, trois jours après, il n'y a plus rien.
Ouais, complètement. Ouais, ça fonctionne pas. Ça, c'est pas si simple, quoi. Sinon, ça se saurait.
C'est ça, c'est pas si simple. Sinon, tout le monde ferait des études.
Bien sûr.
Donc, du coup, voilà. Il manque des choses comme ça. Il y a des semestres aussi qui sont très serrés. Depuis le, je sais pas si, je pense que tu en as entendu parler, le service sanitaire. Depuis que le service sanitaire existe, il a imposé aux IFSI du stage de, enfin, le service sanitaire qui est de 3 ou 6 semaines. Et donc, du coup, t'es censé sortir les étudiants du planning pour faire du stage. Donc, ils sont sur place dans les structures pendant 3 semaines. Bah, je te laisse imaginer que les cours, faut toujours les rentrer. Donc, c'est un Tetris. Tetris, le truc. Franchement.
Ouais, on t'ampute de 3 semaines d'amplitude, quoi. Ouais. Et il faut que ça rentre encore.
Ah non, bravo, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur, surtout qu'en plus, en fonction des valeurs de l'IFSI et de ce à quoi l'IFSI tient particulièrement, bah, en fait, il y a des choses que tu dois réduire, d'autres pas. Typiquement, dans mon IFSI, vu que j'ai fait cette formation de coaching et qu'une autre collègue l'a fait aussi. On a monté un projet développement personnel pour les étudiants pour la préparation de stage. Bah, typiquement, ce temps-là, bah, il a bien fallu le caser sur le planning.
Bien sûr, ouais.
Et c'est pas du temps spécialement du référentiel, tu vois. Enfin, t'as des trucs comme ça, quand tu leur rajoutes... On a monté, avec une collègue, on a monté un escape game. Ouais, c'est méga cool et c'est trop, trop cool à faire et les étudiants, ils adorent. Mais typiquement, en fait, c'est une journée... Ou tu fais ça à la place de...
Tu fais pas le reste.
Ouais. Bah, tu fais pas le reste, ouais.
T'as pas de souplesse pour organiser ça comme tu l'entends.
C'est ça. C'est... En tout cas, c'est pas si simple de tout caser. Ça, c'est vraiment une difficulté.
Et alors, le coaching, parlons-en. Comment est-ce que, ces mois, années, je sais pas, en IFSI, comment est-ce que tu arrives vers le coaching?
Eh ben assez rapidement, parce que du coup je rentre en IFSI en janvier de 2018. Du coup j'étais avec les 3e années et nous on était des équipes de formateurs qui suivaient les promos. Donc, d'accord. Ça veut dire que j'ai fait 6 mois avec les 3e années qui étaient sortants et du coup la nouvelle promo, donc les septembre 2018, ça a été ma première promo que j'ai suivie
dès le départ
jusqu'au bout. Ouais. Et avec cette promo, il y a eu quand même quelque chose de particulier puisque je les ai eus depuis le début. C'est génial, tu vois. Tu les vois dès le début, tu les vois évoluer pendant 3 ans. C'est formidable. C'est ce qu'il y a le plus cool. C'est ce qu'il y a de plus cool dans ce métier, dans ce boulot, dans cette fonction de cadre formateur. Et en fait, petit à petit, il y a des bruits, des bruits avec des étudiants qui me demandent des entretiens de motivation, des entretiens.
Ah.
Ouais, ouais. En plus, je pense que c'est mes étudiants de suivi pédagogique qui ont dû dire, je suspecte ça, hein, parce que moi j'en ai jamais parlé, j'ai jamais dit venez tous me parler, j'adore entendre vos difficultés. Et donc du coup un jour il y a un étudiant qui rate 2 stages, qui rate son premier stage, son stage de semestre 1, son premier stage de semestre 2, Et donc, il me demande un entretien de motivation pour qu'on travaille sur comment est-ce qu'on montre en stage qu'on est motivé.
D'accord.
Comment est-ce qu'on fait Madame, moi, je comprends pas. Moi, j'aime bien, j'ai envie de faire cette formation, j'ai envie de devenir infirmier, mais à chaque fois, on me dit que je suis pas fait pour faire ça, que, tu vois, on lui a dit des choses qui étaient dures, probablement qui étaient liées à son non-verbal à lui aussi, hein, à quelque chose qui montrait. Parce qu'il y a quand même toujours, ce que je dis, il y a souvent une part de vérité quand même, hein, dans un cas comme dans l'autre. Mais donc, du coup, il a eu des difficultés en stage.
Dans le savoir-être, en tout cas, il y avait quelque chose que l'équipe a traduit comme du désintérêt, quoi.
Complètement. Et du coup, on a beaucoup parlé de ce qu'il faisait, pour montrer qu'il était motivé. Et typiquement, il me disait, moi, je vais pas poser de questions. Ça, je le sais, on l'a vu en cours. Tu vois, il était beaucoup là-dedans. Et toi et moi, on sait bien que l'infirmière, elle aime bien qu'on lui demande.
faut poser les questions qu'on a envie, enfin les questions qui nous intéressent, et puis il faut aussi savoir montrer de l'intérêt. Ouais, c'est difficile, c'est ça, comme position.
Complètement. Et dans le savoir-être, par exemple, je sais pas, il partait en pause, il disait pas qu'il allait en pause, et il me dit, en même temps, c'est l'heure de ma pause. Tu vois, en fait, il y avait des codes qu'il avait pas réussi à apprendre. Donc, du coup, on a beaucoup travaillé ensemble sur finalement comment est-ce qu'on peut montrer qu'on est intéressé. Et donc, c'était la première fois que j'accompagnais un étudiant en lui posant que des questions, sans lui dire ce qu'il y a à faire.
Ok.
Et donc, ça a duré quasi 2 heures. Et donc, il était super content. Il m'a renvoyé un mail après. Il était content du travail qu'on avait fait ensemble. Et c'est marrant parce que il a fait son 3e stage. Et bizarrement, son 3e stage, il a validé plein de compétences et ça s'est super bien passé.
Oh.
Donc, comme quoi... Tu vois, il n'est pas plus crétin qu'un autre. Enfin, tu vois, c'est toujours pareil. Et souvent, on dit, c'est ce que je leur dis. Genre, c'est pas parce que vous ratez un stage, vous avez changé de stage, ils veulent vous embaucher. Tu vas dans un stage après, on dit que t'es le pire des professionnels et que jamais tu deviendras infirmier. C'est quand même assez hallucinant. Enfin, tu vois, il n'y a pas de subtilité, quoi. Entre on aimerait t'avoir comme collègue et au secours, ne
change de
pas,
voix.
Quoi.
Ouais.
C'est quand même assez hallucinant. Et donc, du coup, quand il s'est passé ça, j'ai vu que ça avait bien fonctionné. Je me suis dit,
t'as une ampoule qui s'allume, quoi.
Ouais, et c'est arrivé plusieurs fois, du coup. Ça s'est reproduit 3-4 fois. Bien sûr, c'est quelque chose que je faisais déjà avec mes étudiants de suivi pédagogique. Mais du coup, d'autres étudiants m'ont demandé ces entretiens-là.
Et tu ressens comme si on faisait appel à toi comme une experte dans ce domaine. Tu ressens une certaine légitimité parmi tes collègues formateurs. Comment ça s'implante ?
À ce moment-là, pas du tout, clairement. À ce moment-là, pas du tout. En plus, je suis pas formée. Et pour moi, c'est marrant parce que, après, je pense que c'est en plus, le syndrome de l'imposteur qui joue là-dedans. Mais pour moi, j'ai besoin de me légitimer avec de la certification. C'est très important pour moi, en fait. Tu vois, je dis que je suis coach, mais j'ai un vrai diplôme de coach. Tu vois, je dirais pas que je suis coach alors que j'ai pas de formation de coach. Mais après, bien sûr, tout le monde fait comme il veut. mais je trouve que c'est plus sérieux. Après, c'est personnel. Et du coup, je me suis dit, manifestement, j'ai appris pas mal de choses de mon coaching. Tu vois, j'avais déjà appris pas mal de choses de mon coaching et de ma thérapie qui continue encore parce que je continue. Ma thérapie, elle a duré quand même 5 ans. Ça s'est arrêté il n'y a pas très longtemps. Okay. Où je faisais encore de la supervision de pratique. Je ramenais parfois des situations qui me posaient difficulté et je les traitais avec mon psy. Et donc, j'ai appris pas mal de choses, mais je me suis dit, là, il serait temps de passer à la vitesse supérieure pour verrouiller un peu tout ça. La façon de poser des questions, comment est-ce qu'on s'intéresse à l'autre en étant totalement curieux, un peu ce que tu fais là finalement quand tu parles aux gens, c'est se dire qu'en fait on ne connaît rien, parce que là toutes les deux on est infirmières à la base, il y a des choses j'imagine qui te parlent très bien, et en fait tu pourrais te dire je sais ce qu'elle a à me dire, tu vois. Et en fait c'est partir dans le coaching, c'est partir du principe qu'on ne sait rien de l'autre, c'est l'autre qui est complètement expert de sa vie. Et toi, en tant que coach, t'es juste expert du processus, en fait. Tu sais comment guider les gens à passer d'un point A pour arriver du point O au point B.
Ah ouais, j'adore l'idée. Ok.
Et donc, du coup, je me suis formée, je me suis inscrite, j'ai postulé au DESU, c'est un diplôme universitaire, à l'Université Paris 8. Et j'ai démarré cette formation donc en septembre 2020. C'était une formation qui durait 18 mois.
Ok.
Et donc, du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé cette formation qui était et très cadrée université avec de la théorie, des courants de pensée, et en même temps qui avait beaucoup de pratiques. Puisqu'à chaque fois qu'on faisait les regroupements, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de pratiques. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. J'ai découvert plein de choses qui me passionnaient beaucoup, notamment ce qu'on appelle les pratiques narratives. C'est accompagner les gens à travers leurs histoires, et c'est les accompagner à ne plus, entre guillemets, faire le focus sur les histoires qu'on appelle les histoires de problèmes. T'as les histoires de problèmes et t'as les histoires qui sont alternatives. C'est-à-dire que ton histoire de problème, j'ai pas confiance en moi. En fait, non. Il y a la personne et il y a j'ai pas confiance en moi. Et donc, j'ai pas confiance en moi, c'est le problème. Sauf que il y a vraiment le grand principe, c'est la personne est la personne, le problème est la personne n'est pas le problème. Donc, c'est détaché. Vraiment détacher les personnes de ce qu'ils amènent comme quelque chose. Tu sais, je pense que tu as déjà entendu ça et probablement tu l'as dit toi-même, puisque moi aussi, hein, ça, j'ai déjà dit ça. C'est, tu sais, je suis comme ça, hein, on va pas me changer.
Ouais.
Mais le je suis comme ça, on va pas me changer, souvent on se l'est pas mis tout seul, hein.
Ouais. Et puis on ne se définit pas par entre guillemets ce qui pose problème, quoi. On incarne pas le problème
complètement. Mais tu sais, comme je suis timide. Je suis timide, mais moi j'ai toujours été timide. Mais parce que probablement dans l'enfance on t'a dit il est un peu timide, et puis on t'a renforcé, on te l'a dit plusieurs fois. Et ça, c'est vraiment problématique. Et souvent, c'est ce qu'on fait avec les enfants, et ça fait des adultes après qui vont dire moi, je suis timide. Moi, je suis très extravertie. Moi, j'ai pas de problème pour parler. Mais en fait, peut-être que c'est pas toujours facile. Tu vois, mais tu vas.
Mais ça te définit pas à 100%. Ouais.
Exactement. C'est un peu comme un sac à dos que tu as eu à la naissance, et puis en fait, hop, on te le remplit. Ouais. Quand tu es adulte, le sac à dos, il est plus
lourd. C'est lourd.
Voilà, il est plus ou moins lourd, et le travail de coaching que je fais, c'est de dire, écoute, quand tu vas en stage ou quand tu vas au travail, t'es pas obligé de ramener toutes les briques dans ton sac.
Ok. Ouais, ouais.
Après, il y a plein de métaphores, tu peux imaginer la métaphore aussi du collier ou du bijou, t'es pas obligé de mettre toute ta panoplie sur toi tous les jours quand tu vas travailler. Parfois, la brique ou l'objet qui s'appelle confiance en soi, parfois tu peux le laisser à la maison. Il est là, il y a des histoires de confiance. Mais tu peux aussi décider de partir avec autre chose. Tu peux aussi décider de partir avec de la fierté, avec... Tu as plein d'autres choses qui définissent ton identité et qui font aussi partie de ton histoire, sauf que la plupart du temps, t'es focus sur ce qui va pas.
Bien sûr, bien sûr. Ouais, puis ça, c'est le problème de l'humain, je crois.
Exactement.
De se focaliser sur ça. Ouais,
exactement.
C'est sûr.
Et du coup, ce que je trouve passionnant, c'est que tu vois, déjà au bout de 6 séances, déjà les gens, ça y est, tu vois, et tu les vois s'envoler. C'est marrant parce que du coup, Harry, dès que je vois qu'ils sont, partis là, ils sont prêts à s'envoler, souvent j'arrête. Et on me dit, je leur dis qu'il faut arrêter le coaching. Et on me dit, mais t'es sûr, on n'a pas fait les 10 séances. J'ai dit, non, c'est 10 max.
Ouais, ok.
C'est 10 max. Si à 6, t'es parti, c'est bon, t'es prêt, t'as plus besoin de moi, moi, je me retire. Moi, je ne veux pas, je ne veux surtout pas maintenir pour maintenir. Pour moi, c'est pas, entre guillemets, thérapeutique pour les gens. Tu vas pas les garder pour les garder. Au contraire, dès qu'ils sont ok, il faut y aller. Et soit on me dit, mais t'es sûr, vraiment, t'es sûr? Oui, je suis sûre de moi. Et en fait, au pire du pire, la porte n'est pas fermée.
Bien sûr.
Tu vois ?
C'est pas juste un cheminement sur une période donnée.
Bien sûr. La porte n'est pas fermée.
Et cette formation, donc, tu la termines courant 2021 ou tout début 2022 je ne sais plus, je suis bien dans les calculs.
Je la termine... Ah non, c'était 2019-2020, excuse-moi, je me suis trompée. Septembre 2019, je la termine.
Début 2021
Décembre 2020.
Ah, décembre 2020, ok. Quel choix tu fais du coup à la fin de cette formation? Tu décides de te lancer à 100% dans le coaching?
Pas du tout, parce que je suis pas que cadre formatrice, je suis aussi maman, et que clairement j'ai pas du tout le temps de faire ça en plus.
Ouais.
C'est impossible, et puis pour moi c'est extrêmement important. Après, chacun bien sûr voit midi à sa porte, mais moi si j'ai pas cours avec les étudiants à 4h30, je vais chercher mon fils à l'école, hein. Enfin, tu
bien
vois,
sûr.
Puis je retravaille le soir, j'aime bien, ça me dérange pas. Puis en plus, mes étudiants ont toujours été très habitués à ça. ils savent qu'on peut se parler un peu plus tard que la norme. Enfin, tu vois, il y a, y a un, comme un espèce de contrat moral entre nous. S'ils doivent m'écrire le week-end, bah, ils m'écrivent le week-end. Tu vois, enfin, moi, ça me, moi, personnellement, ça me convient. Donc après, okay. chacun voit le, on va dire, le travail ou son organisation comme il le souhaite. Mais moi, ce qui est important pour moi, c'est et de m'épanouir au travail et d'aller chercher mon petit garçon à 4h30 à l'école pour pas qu'il reste à la garderie, mais parce que je ne préfère pas, voilà, c'est mon choix. Et que bah, quand il se couche, vu qu'il se couche super tôt, il se couche à 19h. Donc du coup, du coup, à 19h, je le couche et puis après, bah, il dort et puis moi, je retravaille un petit peu. Je suis très bien. J'aime beaucoup cette organisation-là. En plus, du coup, mon mari, il travaille souvent, il fait de l'intérim en déplacement à ce moment-là. Donc, je suis toute seule le soir, quand même 4 soirs par semaine. Donc, ça ne me gêne pas du tout. C'est une belle organisation. J'ai beaucoup aimé l'IFSI aussi pour ça. Non seulement parce que ça m'a permis de me rallumer ma flamme d'infirmière vraiment beaucoup. Je me suis vraiment éclatée pendant ce temps. Et parce qu'il m'a permis aussi de concilier ma vie de femme et de maman comme je l'entendais. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et donc, j'aurais bien aimé faire du coaching à côté, par exemple le week-end, mais le week-end, bah, c'est pour être avec mon fils, donc du coup, bien et sûr, mon mari. Ouais. Donc, ça n'était pas possible. Et quand tu es à 100% à l'IFSI, c'est un 100% qui te prend beaucoup de temps. Pas forcément en présentiel, mais dans l'état d'esprit, dans l'esprit, en fait. C'est vraiment quand tu sais qu'il y a un étudiant qui est en difficulté en stage, bah, tu vois, le soir, je le rappelle, je lui dis de me rappeler quand il sort de stage, à 21h, on discute, enfin, tu vois. Moi, j'avais envie d'être ce genre de personne, mais c'est pas du tout ce qui nous est demandé. Hein. C'est vraiment, j'insiste là-dessus. La direction était assez au clair sur le fait qu'on a le droit de déconnecter, qu'on n'a pas à faire ça. Enfin, je conçois comme ma valeur de liberté. En fait, pour moi, c'est important cette liberté-là. Et voilà, je dis pas que je faisais ça tous les soirs. Bien au contraire, faut pas exagérer. Mais si j'ai un étudiant en difficulté, je le fais.
Ouais, c'est
aucun
ça.
Problème.
Okay.
Et puis en même temps, c'est pas tous les étudiants, c'est pas tous les stages, tu vois, si t'en as deux dans l'année ou trois dans l'année qui ont des difficultés, c'est pas non plus tout le temps, quoi. Donc ça n'était pas du tout une entrave à ma liberté, bien au contraire, ça participait à mon sentiment de liberté.
Et ton coaching s'adresse à qui ? Alors j'imagine s'adresse à tout le monde, mais est-ce que toi tu as fait le choix de t'orienter essentiellement vers les professionnels de santé, vers les étudiants, vers les gens en reconversion, vers les gens qui ont une difficulté ? Comment ça s'organise tout ça ?
Alors moi je m'occupe, j'accompagne des étudiants en santé, pas que des étudiants infirmiers, des étudiants en santé et des professionnels de santé, c'est pareil, pas que des infirmiers ou des aides-soignants, j'accompagne aussi des cadres. J'ai accompagné aussi quelqu'un qui faisait des études de podologue. Donc en fait, en vrai, entre toi et moi, clairement, je peux accompagner tout le monde.
Oui,
puisqu'en
oui.
fait, c'est un processus qui est commun au coaching et on va dire à la psychologie. C'est des choses qui sont communes. Mais moi, je préfère rester là-dedans parce qu'en fait, je le vois vraiment comme une continuité de ma profession. Moi, j'aime vraiment d'un amour inconditionnel cette profession infirmière. Je l'aime vraiment beaucoup. Si demain je devais y retourner, j'y retournerais sans problème. Je pense que mon corps me dirait aïe aïe aïe. mais tu vois, pendant la crise sanitaire, j'ai accompagné des étudiants. J'étais sur la réa. J'ai fait des pansements. J'ai posé des paires. Enfin, j'ai fait plein de soins. Et en fait, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, tu vois.
Bien sûr.
Ce qui était dur, c'était, j'avoue, le logiciel, là, je leur ai dit, là, les gars, il me faudrait 2 mois d'immersion pour le logiciel, parce que le logiciel, ça va pas être possible. Mais par contre, l'organisation, faire une toilette, enfin, tout ça, je sais encore très bien le faire et j'aime bien. J'ai pas quitté ce métier parce que je ne l'aimais pas, vraiment. C'est juste que c'était toujours, en fait, c'est un peu comme une sorte de quête pour être sur le bon chemin, tu vois. Et donc, c'est, voilà, je fais mon petit chemin pour être le mieux possible, aligné à mes valeurs et tout ça.
Mais je trouve que ta trajectoire, elle est très belle et elle est très cohérente, en tout cas.
Merci.
Enfin, qui suis-je pour juger ? Personne, mais on sent que, je dis pas ça pour valider ce que tu fais, pas du tout, mais pour moi, tout ce que tu as raconté jusque-là, c'est cohérent, quoi, donc... puis t'as l'air heureuse dans ce que tu fais, donc c'est bon, quoi.
Ouais, complètement. C'est vrai que ça me passionne beaucoup d'accompagner les gens. Je trouve ça vraiment génial. Je trouve ça vraiment chouette. C'est extraordinaire.
Oh, super. On mettra des petites références en description de l'épisode, on discutera de ça en off, mais voilà, s'il y a des gens qui cherchent aussi à se reconvertir, à entamer une formation de coaching certifiante d'ailleurs, donc c'est ce dont tu parles, on essaiera de mettre ça en description de l'épisode. Ben, merci beaucoup Sabrina.
Mais de rien. Mais c'est pas mal ce que tu dis, parce que ça me permet de juste d'ajouter, effectivement, attention quand on va voir un professionnel de l'accompagnement, à aller voir quelqu'un avec qui on se sent bien, ça me paraît évident.
Oui.
Mais aussi aller voir des gens qui se font appeler par des appellations correctes. Parce que le nombre de coachs qui ne sont pas coachs, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Vraiment.
C'est
beaucoup.
Vrai, ouais.
Ah oui. Il y en a vraiment beaucoup et qui font des choses que j'appellerais, tu sais, freestyle, tu vois. Freestyle en fonction de comment tu le sens, ou qu'on trouvait des trucs sur Internet, ou qui font des formations de 3 jours sur Internet pour devenir coach. 3 jours, ça suffit pas. Hein. Ouais. Clairement. On peut avoir une fibre à la
Oui, c'est pas le problème.
C'est ça, c'est pas le problème. Mais quand j'ai entendu, oui, mon coach m'a dit de faire ça, le coach ne dit rien. Un coach ne te dit pas comment faire. Si tu fais du coaching pédagogique, tu peux aborder des méthodologies, mais tu ne dis pas aux gens quoi faire. Des fois, on me dit, j'hésite, Sabrina, entre faire ça et faire ça. C'est, on va travailler la prise de décision, on va faire des choses comme ça. Mais jamais je vais te dire,
t'orientes
fais
pas,
ci,
quoi.
Fais ça. Après, moi, qu'est-ce que je ferais? Je suis pas toi.
Ouais, puis il faut pas non plus se voir à travers les gens qu'on coach.
Complètement.
Ouais. Complètement. C'est pas simple tout ça. Hein. Moralité, méfiez-vous quand même, quoi.
Franchement,
renseignez-vous, quoi, sur ce qui existe.
Ouais. Vraiment, ouais. Je pense que c'est important.
Et puis on mettra, comme je vous disais en description de l'épisode, plein de ressources pour les gens que ça intéresse. Yes. On va finir par le petit portrait chinois, Sabrina. Première question, si tu avais une baguette magique, quel outil voudrais-tu inventer pour t'aider dans ta pratique?
J'adore. Alors moi, tu vois, en plus, moi, j'aime beaucoup Harry Potter. Moi, j'ai grandi avec Harry Potter. Et donc moi, si je pouvais inventer un objet, ou si je pouvais l'avoir, puisqu'il existe déjà dans les films et dans les livres, j'aimerais avoir un retourneur de temps. Ce qui me permettrait d'arrêter la frustration, tu sais, quand je vois 4 heures arriver et que c'est l'heure d'aller chercher mon fils, et que je me dis, allez, si on pouvait retourner de 2 heures, ça me ferait 2 heures de plus pour bosser. Je serais bien contente.
Très bien, je vois complètement. Question suivante, la phrase que tu prononces le plus au quotidien dans ton travail.
C'est une phrase, c'est une question. C'est une question, quand les gens me racontent une histoire, je leur demande très souvent... Qu'est-ce que cet événement, cette situation, cette histoire raconte de ce qui est important pour toi dans la vie? C'est intéressant parce que du coup, ça nous amène sur les valeurs. Donc, dans le travail de coaching, c'est intéressant.
Très bien. Plutôt thé ou café?
Thé, bien sûr. J'étais avec pendant tout l'épisode.
Je l'ai vu. Vous ne l'avez pas vu, mais moi, j'ai vu la tasse. question suivante. Plutôt 10 ans dans le même lieu d'exercice ou 10 lieux d'exercice en un an?
10 lieux d'exercice en 10 ans?
Réponse acceptée. Hein.
Je dirais que ça dépend si t'as plusieurs activités ou pas, finalement. Parce que si t'as, comme aujourd'hui, le coaching, la formation... d'autres projets, plein de choses à faire, là je veux bien rester 10 ans à ma place.
Je vois. Et la dernière question, si tu n'avais pas exercé le métier d'infirmière, puis de cadre formatrice, puis de coach, vers quelles études ou vers quel métier te serais-tu orientée?
Je pense que ça aurait donné quand même des études, mais moi là, si demain je pouvais faire un métier lucratif, bien sûr, parce que quand même faut vivre. Moi j'aurais bien aimé raconter des histoires pour les enfants, j'aime beaucoup ça. Ouais, je lis beaucoup d'histoires avec mon fils. En fait, les histoires, c'est important pour moi, donc on se raconte beaucoup d'histoires, on invente beaucoup d'histoires et on lit beaucoup beaucoup d'histoires. J'ai un budget complètement illimité sur les livres, c'est un désastre.
Mais t'as raison.
J'aime beaucoup ça.
Ok, super, écoute, merci beaucoup Sabrina, c'est l'instant autopromo. Donc, on t'écoute, savoir où te retrouver, où te contacter, comment te contacter. Je t'écoute.
Et ben, du coup, on peut me retrouver sur Instagram, sur mon compte Sabrina Mendes Kerr, avec le tiret du 8, entre Mendes et Kerr. On va bientôt me retrouver sur mon site qui est en construction et qui sera bientôt prêt. Donc, probablement qu'à l'heure où on écoute le podcast, il sera prêt et donc il sera en lien dans ma bio. Et voilà, on peut me retrouver en présentiel à Bordeaux et sinon en distanciel, puisque je travaille quasi que en distanciel, puisque j'ai beaucoup de personnes qui sont un peu partout. Lyon, justement, Paris, sud de la France. J'ai vraiment beaucoup de gens qui sont de partout. Très peu de Bordelais. Donc du coup, je fais plus du distanciel.
Ok. Bon, puis avec la crise sanitaire, hein, c'est quand même bien que cette alternative existe.
Mais ça nous a amené ça. Franchement, dans les écoles d'infirmières, ça a amené vraiment ça, le distanciel, l'ouverture à plein de possibilités, et ça, c'est vraiment chouette.
Ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai. Mmh. Et tu vois, moi, pour le podcast, je m'étais dit, j'essaierai de recevoir un maximum de personnes en face à face. Bon, il y a la réalité des choses aussi qui fait que j'ai des portraits des quatre coins de la France, voire du monde, donc c'est chouette de pouvoir interviewer tout le monde. Mais en fait, il existe plein de choses maintenant pour faire ça bien. Et on arrive à échanger en étant à des centaines de kilomètres les uns des autres. Ouais. Preuve en est aujourd'hui, donc heureusement que ça existe.
Ouais, c'est chouette.
Merci beaucoup Sabrina pour tout ça, quel beau parcours, super merci. Inspirant.
Merci à toi.
Et puis je te souhaite bonne continuation, plein de bonnes choses pour la suite.
Merci, toi aussi, prends bien soin de toi.
Merci, à bientôt Sabrina.
Salut.
Merci beaucoup à Sabrina pour son récit. Je n'ai pas vu passer les minutes à ses côtés, tant son expérience est riche. Si vous aimez le podcast, je vous invite à laisser 5 étoiles sur votre appli préférée. Et pourquoi pas me laisser un commentaire pour me faire part de vos impressions. Merci pour vos écoutes toujours plus nombreuses. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.